Vous écoutez
RMC.
RMC. Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Thomas Desson.
Bonsoir à tous, une émission préparée par Arthur Robert. C'est un nouvel adepte de mon petit gazon. Il est comme un dingue là-dessus. Kevin Diaz, comment ça va?
Bonsoir, bonsoir à tous, ça va très bien.
Mon petit gazon, je te sens affûté là déjà.
Ouais, c'est vrai que je me prépare doucement à ma première saison.
Il entame sa 13e saison, 13 à la douzaine dans l'after. Salut Daniel,
salut.
Daniel Riolo.
Salut les amis.
Messieurs, voilà le sommaire, parce qu'on est ensemble jusqu'à minuit, donc on a des choses à dire, évidemment. Lokomotiv Plovdiv Strasbourg, 1-0 pour les Strasbourgeois, avec vos rubriques, les 3 points bien évidemment, les évaluations, allez-y au 32-16, réagissez avec nous et donnez-nous votre avis sur le Racing, bien évidemment. Une signature qui respire l'ADN enseveli, camouflé du FC Nantes, ce club qui manquait à son CV. Christian Gourcuff a dit oui à Valdemar Quitta. Pour combien de temps ? Moins de 24 heures avant le début de la saison de Ligue 1, deux prétendants au podium, Monaco-Lyon. Et pourtant, c'est un peu le flou, le flou intégral. L'OM, il va falloir que ce soit comme ça que tu l'aimes. D'après André Villas-Boas, le mercato marseillais semble clos, suffisant pour être un prétendant. Régissez avec nous. Et puis la deuxième heure, à partir de 23h en Angleterre, le mercato est fermé, entériné. On va parler des dernières trouvailles, des dernières dépenses, des craquages selon Kevin Diaz. Avec cette inflation, il en a ras-le-bol. Notre ambassadeur Julien Laurent sera avec nous, tout comme notre économiste du soir qui sera aussi là, Vincent Chaudel. Et un petit point avec Fred Hermel. Parce que si Pogba n'est pas parti, est-ce que Pogba partira? Voilà pour le sommaire de cet after. Messieurs, c'est l'heure des 3 points. C'est important dans l'after, les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Bon, il y a Plovdiv Strasbourg, évidemment, Kevin, mais qu'est-ce
ça, c'est
que tu...
Le premier point. Le deuxième point, c'est Plovdiv Strasbourg. Et le troisième point, c'est Lokomotiv Plovdiv Racing Club Strasbourg.
Très bien, les deux voilà, premiers sont les mêmes pour Daniel.
Je sens bien structurer la réflexion que va mener Kevin Diaz, parce qu'en tant qu'ancien joueur, c'est lui qui doit décrypter techniquement et tactiquement quelle a été la substance de ce match. J'aimerais d'ailleurs qu'on parle du défenseur central bulgare. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moyen, moi,
personnellement. Ouais, il a été en défaut sur cette dernière occasion d'Ajorque, là, tout seul devant les gardiens.
Il est en train de te enfiler la patate chaude. Non, non, non. Les trois points du match ou du jour, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui, là, en ce jeudi 8 août?
Bah, aujourd'hui, à l'instant T, c'est quand même le très bon match de Strasbourg qui a su profiter très vite d'un bon début de match, mais ensuite, bien sûr, de ce coup franc et de ce carton rouge. Avec un coup franc bien réalisé, avec une belle tête au deuxième poteau. Donc ça, c'est bien. Ils auraient même pu aggraver le score en fin de match. Donc c'est presque dommage qu'ils ne soient pas déjà qualifiés pour le prochain tour, qui devrait être contre l'Eintracht Francfort.
On va en parler de ça, évidemment, hein, le derby de la saucisse. Est-ce qu'on a un petit peu mis la charrue avant les bœufs?
Très bon match. Bon résultat.
J'ai dit très bon résultat. Dit c'est dommage que ça aurait pu être un très bon match s'ils avaient marqué un deuxième but.
L'absus que tu n'as pas maîtrisé, on a tous le droit. C'est un très bon résultat. Le match, il n'y a rien eu.
Oui, non, il n'y a pas grand-chose.
Absolument rien proposé. Il était venu avec une tactique qui a fonctionné bien au-delà de ce qu'imaginait et espérait Loret. Quand, au bout de 10 minutes, les mecs d'en face prennent carton rouge et que sur l'action qui suit, qui n'est pas un péno, c'est mieux quand c'est péno, mais c'est un coup franc
bien réalisé,
pas spécialement dangereux, mais belle combi qui se termine par un but.
Jonas Martin pour Mitrovic.
C'est fermé, c'est bouclé derrière. Les Strasbourgeois n'ont rien fait. Choix, est-ce que c'est un bon choix d'avoir joué?
C'est dommage quand même, il y a beaucoup d'échéances à venir pour eux, le début de championnat. S'ils avaient marqué un deuxième, un troisième but, je ne sais pas, mais au moins un deuxième but, ça s'était bouclé.
Une équipe B,
c'était quasiment bouclé.
T'as été à l'aise quand il a essayé de te prendre un revers, parce que le défenseur central s'appelle S. T'as été à l'aise. Est-ce que justement, quand on fait rentrer Ajorque pour un dernier quart d'heure, c'est pour essayer d'en mettre un petit deuxième avec sa taille en fin de rencontre?
Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux le faire rentrer Ajorque, pardon. Je sais pas si c'est franchement pour le côté offensif. D'abord, je pense que tu l'as pas fait jouer parce que tu penses au match de ce week-end et si ça s'était mal passé ce soir, il y avait quand même peu de chances que ça se passe mal. Bon, ben, tu le préservais en vue du championnat plus du match retour. Non, c'est, je pense que c'est plus une économie de force. Après, tu le fais jouer un quart d'heure pour, ça va pas lui faire de mal avant le match de ce week-end. Voilà, mais je crois pas que ce soit pour aller chercher.
Et si c'était
deuxième,
pour une économie financière? En cas de, d'éventuel transfert du côté d'Ajax.
Il y a eu une piste, tu as raison de le dire, Kevin. Il y a eu une piste, effectivement. On voulait remplacer Haller avec un grand d'1m95. Avec, là, pour le coup, effectivement.
Bon, du coup, ils vont attendre la double confrontation. Non, je finis quand même les trois points.
J'aimerais bien, mais tu sais, Daniel a décidé de saboter un petit peu ce soir.
Non, juste, allez, vite.
Les trois points du jour, Daniel. On peut sortir un petit peu du match si on le souhaite.
Je vais préciser une chose, et ceux qui étaient avec nous hier soir vont facilement comprendre. On a fait un jeu hier. Avec Ludo et Timothée, où on devait trouver les équipes, souvent très faibles, qui avaient sorti dans les tours préliminaires des clubs français.
Oui.
Très franchement, sur les 20 dernières années, il y en a un paquet.
Des Astra, gens, c'est le premier qui me vient à l'esprit.
Il y en a eu plein. Franchement, il y en a eu beaucoup. Des genres de catastrophes comme ça. Et souvent, elles ont touché des clubs comme Lyon, Saint-Etienne. Pas grand monde est passé au travers. Tout le monde a eu son petit lot d'humiliation. Aujourd'hui, ok, tu joues une équipe en bois, mais ce à quoi j'ai fait référence il y a deux secondes, bah, c'était des équipes en bois. De la même façon, les Elfsberg, Karabag, machin, ouais, tout ça. Strasbourg, c'est pas un gros de notre championnat. C'est une équipe qui a fini milieu de tableau, qui se retrouve là parce qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue, qui veulent vivre une petite aventure européenne. Bon, bah, les gagner 1-0 à Plovdiv, même si t'as très peu proposé de choses, il n'y a pas tellement à faire la fine bouche. C'est le genre de match que tu regardes d'un œil. Tu l'as gagné, tant mieux. Tu vas passer en championnat, te qualifier. Et puis, le vrai gros match pour eux, s'ils doivent faire ce qui va ressembler exploit, c'est peut-être un peu fort, mais belle perf. Bon, ben, ce sera tes deux matchs contre l'Eintracht, t'as une belle affiche dans ton stade, oui, avec un club voisin. Voilà, ils vont s'offrir un très grand moment. Et c'est ce qu'ils voulaient en, oui, gagnant la Coupe de la Ligue.
Après,
c'est s'offrir, offrir à leurs supporters qui sont toujours très nombreux et qui aiment les belles ambiances et les belles émotions. Ils voulaient faire ce cadeau. Ils se sont fait ce cadeau, ils ont fait ce cadeau à leurs supporters. Donc, faisons pas la fine bouche.
22 non, et 29 août prochain. Et en plus, ouais, effectivement, avant, il y a une autre grosse échéance. Strasbourg-Metz. Strasbourg-Metz, ouais, en tant que voilà, tel, c'est un match important.
Les supporters
pour
de Racing, sur cette fin août, normalement, le championnat. Août, tu fais rien, tu glandes.
Ouais, c'est sûr.
Eux, ils se tapent une fin août d'enfer.
Mais surtout, il faut quand même pas oublier d'où vient le Racing Club de Strasbourg.
Et bien sûr.
Et voilà, c'est pour connaître un peu.
Ils ont remporté le match le plus en bois de l'année. Hein, parce que ce Strasbourg-Guingamp, cette finale de la Coupe de la Ligue, c'était peut-être le plus moche match de l'année.
Oui, mais peu importe. Ils viennent de très loin. Alors il y a peut-être des supporters d'autres équipes qui l'oublient, mais il y a encore très peu de temps, le Racing Club de Strasbourg était en CFA 2, puis CFA, puis National, puis Ligue 2, puis Ligue 1. Donc voilà, ils viennent de très loin. On voit quand même ces dernières saisons, je pense que Daniel sera d'accord, les clubs français prennent de plus en plus au sérieux quand même cette Europa League. Ils ont bien compris que maintenant l'Europa League quand même ça permet, alors on va en parler assez, mais ne serait-ce que économiquement, voilà, de quand même de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, pourquoi pas de mettre des joueurs
de monter un ou deux joueurs à toi.
Voilà, exactement, de mettre des joueurs un peu sur l'étalage, de les vendre un peu plus cher, et puis voilà les émotions qu'on connaît ces dernières années en Coupe de France en Coupe de France. Ouais, petit lapsus encore, mais plutôt en Coupe d'Europe sont quand même très très belles. Et donc c'est vrai qu'il faut quand même louer le bon travail de Strasbourg qui joue cette compétition à fond et qui pourra avoir deux belles finales en fin août.
Kevin, on va voir un autre Kevin au 32-16. Il ne doute de rien, les Alsaciens. Vous savez ce qu'ils font au mois d'août? Le match, c'est aussi l'occasion, Kevin, de bien manger et de bien boire.
Exactement. Bonsoir messieurs.
Salut.
Bonsoir Daniel, bonsoir Kevin. Ouais, ça fait plaisir, mais vous avez tout dit, hein, match pourri, un match tampon.
Non, on n'a pas parlé du fait que vous avez mangé des flammeux coucheux et bu des bonnes bières en regardant ce match.
Tarte flambée, bonne bière, ça c'est sûr, dans un caveau, restaurant l'Alsacien, je vous invite à y venir, rue Sambon. Bon, bah, voilà, la pub est faite. Mais sinon, pour revenir au match, ouais, match en bois, mais on a râlé, on a beuglé parce que...
Kevin, je suis contraint de te couper, excuse-moi, on revient de voir dans un instant, priorité au direct, conférence de presse en direct d'un homme qui était sur son 31 ce soir, Thierry Loret.
Mais là, on est resté sans cesse face à une formidable équipe de locomotive qui s'est battue vraiment sur tous les ballons.
Добре започнахме матча и всичко беше на наша страна с първа възможност за отбелязване, отстраняване на играча на противника Можеше наистина малко по-просто да играем, но нещата
си поделиха така добре за нас. Ah,
oui, mais si vous regardez sur RMC News et que vous voyez le regard totalement perplexe de Thierry Loret qui ne bite pas un mot.
Réflexion à la radio, ça va être chaud quand même.
En communication de Roland Gussic, c'est bien, on l'écoute.
La possibilité de marquer un deuxième but, notamment en seconde période, on a eu quelques situations qui étaient vraiment intéressantes. Là, on ne l'a pas fait, donc on aurait aimé justement profiter de la supériorité numérique pour aggraver le score, mais bon, c'est l'histoire d'un match et on n'a pas su le faire. Et il faudra justement arriver à conclure de manière un peu plus précise nos actions sur le match retour.
Arthur Robert m'a dit c'est le fil rouge de la soirée, c'est la conférence de presse de Thierry Loret en direct. Vous êtes d'accord avec ça?
On est tranquille. Hein.
il voulait un petit 2-0. Il y a aussi Bruno Akrapovic.
Et puis ils ont eu quand même deux trois occasions. Ouais, une en fin de première période et une sur la fin. S'ils en mettent une sur les deux, là, c'est plutôt pas mal. Quoi.
Ouais, celle d'Ajor.
Après, les Bulgares aussi, ils en ont eu une ou deux, hein, quand même, des sérieuses.
Sachant qu'ils étaient à 10 en plus, donc, fallait quand même pousser un peu plus. Et, c'est dommage que Ajor
rate. Ils se sont quand même pas baladés, les Strasbourg joueurs. Hein. On est content pour eux, l'aventure, on va parler tout. Mais si on doit juste parler d'un niveau global.
Oui. Il a dit qu'elle était formidable, l'équipe de Plovdiv.
Petit club de Bulgarie.
Cinquième de son championnat qui a débuté mi-juillet. Hein, et huitième du championnat dernier.
Tu vois la plupart de leurs joueurs. La façon qu'ils ont de conduire le ballon, de toucher le ballon, techniquement, c'est souvent meilleur que la plupart des joueurs de Strasbourg. Mais ça, c'est notre football qui est comme ça. Mais à chaque fois, je peux pas m'empêcher. Ça me frappe et mes yeux ne voient pas autre chose. Quand tu vois certaines passes qu'ils se font ou une façon de conduire le ballon et tout, c'est sûr que nous, à Strasbourg, t'as Jonas Martin qui est un très beau joueur de foot. Après, pour le reste, bon ben c'est beaucoup physique, c'est beaucoup de la course, de l'élimination à un contre un. Bon voilà.
Kevin, ça suffit pour qu'est-ce que tu as compris de cette compo de Thierry Loret avec encore des jeunes latéraux, Mohamed Simakan, Abdallah Ndour qui est même un cran plus haut, Bellegarde milieu offensif arrivé de Lens qui joue en tandem avec Da Costa. Est-ce que ça veut dire que le match le plus important c'est celui de dimanche? Qu'est-ce que tu as compris avec cette compo?
Ah mais c'est complètement ça. C'était quand même un peu perturbant parce que il avait dit en début de saison qu'il voulait jouer la Coupe d'Europe. Donc il compose un peu pour.
Ah c'est normal, c'est normal. Tu sais, c'est chaud de jouer le jeudi. En plus ils vont se faire un gros c'est un déplacement pas simple. Ils doivent rejouer dimanche. Franchement je peux comprendre. Et à l'arrivée quand ça fait 1-0, ça veut dire qu'il a réussi son affaire.
Exact. Mais par contre tu vois Daniel, ce qui est sûr. Et ça, c'est même une promesse, et Strasbourg adore faire ça, c'est que contre Francfort, vous n'aurez pas le même match. En tant que Strasbourg et outsider, ils savent sortir les matchs.
C'est-à-dire j'espère.
Ça fait quand même deux saisons que Paris ne gagne pas contre
Strasbourg.
J'espère,
j'ai pas envie d'en douter. Ouais.
Ah non, mais moi, j'en suis quasiment sûr. Il y aura la grosse équipe, et il y aura déjà sur les gradins, ça va être magnifique, à l'aller et au retour. Et sur le terrain, on vendra cher notre peau.
Ils sont plus flamboyants. Pourquoi on se permet de vous dire ça? On se permet de vous dire ça parce qu'il y a 3-0 après une demi-heure tout à l'heure pour l'Eintracht face à Vaduz, le club du Liechtenstein. Donc c'est quasiment acté peut-être.
On ne comparait pas Vaduz, Strasbourg à Vaduz. Mais ceci dit,
je veux pas vendanger contre. Je veux pas vendouzer.
D'accord, c'est ça.
Ok.
Après c'est bien quand même ce qu'a fait Thierry Loret parce que il a fait un peu tourner. Strasbourg a déjà fait deux matchs officiels. Il y a un match qui arrive très vite, si je dis pas de bêtises.
Oui, il faut pas le rater celui-là.
Voilà, c'est quand même un derby, donc c'est important de bien démarrer la saison face à Metz. Donc voilà, il a fait tourner son effectif. Et quand même, normalement, un effectif comme Strasbourg, même en faisant tourner 3-4 éléments...
On aurait dû gagner 2-3-0. Hein.
Voilà, même en faisant tourner 3-4 éléments, tu dois pouvoir, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe 5e du championnat bulgare, tu dois pouvoir... surtout qu'ils sont quand même à 10 hein, sur 85 minutes. C'est quand même dommage. Mais il l'a dit aussi, hein, l'entraîneur strasbourgeois, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas fait le break comme a fait Francfort à Vaduz. Et voilà, ils auraient pu déjà être qualifiés.
Ce manque de flamboyance, ils l'ont fait face à Haïfa. Quand ils ont marqué un but rapidement au bout d'un quart d'heure, derrière subissent énormément. Là, à 10 contre 11, Sels, il en sort une à la 22e, une à la 28e. Donc, Kevin, tu nous dis pour conclure, ce sera plus flamboyant contre l'Eintracht.
Oui, enfin,
s'il se qualifie.
Passons déjà le retour. Hein, voilà. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, pour dire l'expression comme il faut. Mais, déjà, battons Plovdiv au retour, ce que je ne doute pas.
Oui, ça quand même.
Et déjà, il y a des chances, c'est vraiment faible en face. Et par contre, après, oui, contre Saint-Étienne, vous ne verrez pas le même match. Parce que on se battra contre beaucoup plus fort, parce que la pression sera un peu plus forte.
Parce que tu ne feras pas le jeu, tu joueras en contre, ça correspond mieux à Strasbourg. Et puis voilà.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le
classique,
stade contre le fort, et du coup, ils vont pas être dilettants. Comme
classique trouvé, équipe de France.
D'Acosta, ouais. D'une dilettante incroyable, même d'autres joueurs qui n'arrivent pas à être pro jusqu'au bout, c'est-à-dire même contre un faible. Et c'est vrai que c'est très français, ça, Daniel. Même quand c'est faible, on joue notre meilleur niveau et on gagne. Et ça, on ne sait pas faire. Et c'est pénible.
Ouais. Bon.
C'est l'opposé d'Ibra, fort avec bien. Les faibles. On revient dans un instant. Vous connaissez le topo, c'est les évaluations. Le taulier de cette rencontre, le Casper, les pieds carrés. Wow. Allez-y, réagissez. 32-16, on a des avis. On a des auditeurs qui veulent donner leur avis. Vous écoutez l'After sur RMC. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot, Thomas Desson.
Avec Kevin Dia ce soir et Daniel Riolo, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Évidemment, dans la deuxième heure, on parlera de Pogba qui reste en Angleterre. Quid pour le Real. On parlera de ce mercato entériné en Angleterre. Nantes a un nouvel entraîneur et l'OM a bouclé son mercato. Mais d'ici là, revenons sur ce débrief de Plovdiv-Strasbourg avec Olivier, messieurs. Qui aurait bien voulu un deuxième petit but en deuxième période. Taulier, Casper, oui. Pied carré. Salut Olivier, tu nous dis tout sur ce match.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Salut.
Bonsoir. Alors, ouais, comme dit, j'étais un peu sur ma faim parce que, bon, de toute façon, quand on supporte un club comme le Racing, c'est difficile d'être objectif. Déjà, j'ai pas eu l'impression. Alors, je disais tout à l'heure au coach Courbis, est-ce qu'on risque pas de retomber dans le travers comme contre le Maccabi Haïfa en marquant tôt et en se retrouvant à 11 contre 10? J'ai eu l'impression ce soir que les Bulgares ont voulu plus que nous. J'ai pas eu une impression flagrante d'une équipe qui était un joueur de moins. Alors, peut-être, bon, ok, on va se réserver pour le match contre Metz, parce que la Ligue 1, ça reste la priorité. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. On a une occasion de Ayork qui se trouve, donc qui se rate face à un super gardien avec la main ferme, très bon réflexe. Les Bulgares auraient pu nous en mettre un aussi avec leur occasion au ras du poteau, deuxième mi-temps. Mais on fait quand même moins d'erreurs en défense à part le premier ballon dans le dos à la première mi-temps. On a assuré l'essentiel.
Olivier, du côté du Racing, tu n'as qu'un seul taulier avéré assumé, c'est Jonas Martin. En face, Jonas le souci, Martin. C'est qu'on sait qu'il y a le capitaine Dimitar Iliev et qu'il a montré le bout de son nez. Donc la seule menace vraiment identifiée du côté des Bulgares, ils n'ont pas su la contrer, mais beaucoup de jeunes pousses, difficile quand même de composer.
C'est difficile, surtout que techniquement, les Bulgares, ils sont censés être en soumis, donc ils ont peut-être beaucoup plus joué leur peau. Ils étaient chez eux, ils avaient une ambiance qui devait être assez dingue sur le terrain. Je pense que ça devait quand même les transcender.
Ouais, il n'y avait même pas 8000 personnes.
Ouais, mais bon, 8000 personnes, quand vous êtes habitué, vous êtes en Europa League, ça fait son tout.
Tu sais, Olivier, moi, techniquement, Daniel l'a dit aussi, mais c'est pas techniquement que les clubs français ou que Strasbourg fait la différence face à ce genre d'équipe en fait, parce que techniquement ça reste des joueurs professionnels en face.
C'est
physiquement, bah ouais. C'est dans la gestion de l'événement, mais surtout c'est dans la capacité athlétique c'est quand même la grande qualité de nos équipes françaises, et ça il faut le dire. Voilà, répéter les efforts, c'est des athlètes de très haut niveau. Il y a beaucoup de structures.
Tout ce qu'il y a dans la dimension physique.
Voilà, tout ce qu'il y a athlétique, je dirais même athlétique plutôt que physique.
C'est comme ça que tu les bats dans la discipline. Dans la discipline que tu as à maintenir un schéma tactique défensif pour pas être pris en défaut, voilà. Mais honnêtement, une équipe moyenne de notre championnat comme Strasbourg, c'est de la D2 voire de la D3 en Europe. Ils jouent un peu au-dessus de Plovdiv ou même la meilleure équipe de Bulgarie. Je pense que ça devient tout de suite très 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 compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Je suis pas sûr que ça passe forcément. Hein.
Bah ça a été compliqué. Je pense qu'on a aussi eu beaucoup, on a eu peur de prendre des buts et les Bulgares nous ont fait peur parce qu'ils ont voulu beaucoup plus que nous. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que si on fait un match comme ça avec le frein à main, sachant que des atouts comme d'Acosta, franchement, on peut pas dire qu'on a pu beaucoup compter sur lui. Francfort, moi, ça me fait très peur, ils vont nous ouvrir.
Bon, après, oublie pas quand même que d'Acosta, c'est le joueur qui permet de jouer à 10 tout le match.
Oui, peut-être, mais ouais, maintenant, il aurait pu être peut-être plus impliqué. Moi, j'aurais voulu qu'il ait plus de ballons, qu'il le garde plus.
Oui, il peut faire plus.
Et qu'il soit plus, voilà. Oui, après, on peut être plus exigeant, mais je pense qu'on n'aurait pas, on n'a pas assez profité de notre supériorité à 10 contre 11. Et on peut avoir des regrets parce qu'ok, on rentre à la maison avec 1-0, mais on va être de retour à la maison, on va être chez nous, on va avoir une ambiance de dingue. Mais oui, attention, c'est jamais fini.
Bien sûr.
Après,
que c'est...
voilà, faut pas oublier d'où l'on vient. On était en CFA il y a 6 ans. On a tout un club,
tout un
peuple qui nous suit. On doit être présent, mais voilà. J'attends. Non, mais... J'espère qu'on sera un peu plus constant et peut-être plus précis, qu'on fera peut-être moins d'erreurs de perte de balle que.
On est d'accord, Olivier. On est d'accord sur le fait, on l'a dit aussi, et Laurel l'a dit aussi après le match, que vous auriez dû marquer au moins un deuxième but pour vous mettre à l'abri complètement et préparer les prochaines échéances. Maintenant, toi, tu parlais de Dacosta, pas Dacosta. Moi, je pense que c'est collectif. On l'a vu également contre Raifa, où vous aviez, en tout cas, l'équipe de Strasbourg avait bien maîtrisé une bonne partie de la première mi-temps avant, sur une erreur de concentration, une erreur d'alignement, de quasiment d'offrir l'égalisation. Et ensuite, ils avaient un peu perdu pied. Mais c'est ça la différence entre le très haut niveau et le haut niveau, qui est en général un club moyen de Ligue 1. C'est qu'il faut avoir la constance sur 90 minutes au niveau de la concentration et de la technique pour arriver à maîtriser les rencontres.
Kevin, il peut coûter cher ce mois d'août au Racing. Ils ont un derby qui est important. Ils ont une double confrontation, comme le disait Daniel, Olivier, qui est une finale pour vous. Ce derby là aussi contre Francfort, qui peut derrière t'emmener vers une campagne de 6 matchs européennes, mais tu peux finir aussi carbonisé parce qu'on le voit.
Non.
La profondeur, elle est pas énorme.
Non, Thomas.
Tout ça, Thomas. Tu fais rien.
Thomas.
Quand tu fais pas les matchs, tu fais. Ouais, non, mais dans ces cas-là, n'y va même pas, quoi. Ça rime à rien ce que tu dis. T'es compétiteur.
Je te réveille au moins, c'est bien.
Tu veux un match de foot.
Quand nous on a l'occasion de jouer contre un gros
Olivier, attends,
fort,
Olivier.
Non, c'est pas ça, c'est qu'à force de se dire c'est toujours le match d'après le plus important. Il fallait effectivement jouer
celui-là. Le match d'après, c'est le plus important.
On passe son temps à entendre des coachs dès que c'est terminé avec la carotte en disant.
Mais Thomas, nous aussi, on combat toujours ces idées de merde.
Non, donc là, il faut que Strasbourg n'a aucune excuse.
Si tu dis ça, tu en diras de notre part.
Des idées de M.
Olivier, je pense qu'Olivier, et après on te laisse la parole, mais tu seras d'accord avec nous. On réclame souvent ici à l'After et ailleurs que les clubs français jouent les compétitions européennes à fond. Maintenant, les compétitions européennes se passent souvent pour les clubs français et d'autres en tour préliminaire au mois de juillet ou au mois d'août. Faut le jouer à fond, faut tout donner, faut pas calculer, et ils auront le temps ensuite de voir comment ils vont gérer le reste de la saison. Mais s'il vous plaît,
le but du jeu, c'est pas non plus de se cramer et de se faire mal, mais ça reste un match européen. C'est Francfort. On a l'occasion d'arriver en phase de poule de l'Europa League. La compète qui a été gagnée par Chelsea l'an dernier, c'est pas n'importe quoi. Nous, c'est une occasion peut-être unique pour certains joueurs. C'est un rêve.
Par l'Atletico l'année d'avant, c'est jamais remporté par une équipe de merde.
Je veux dire, Strasbourg, c'est pas non plus l'équivalent des poids lourds européens. On est en train de renaître. On fait des choses formidables. C'est très français, je pense aussi, d'être tellement exigeant, de voir toujours que l'on soit au niveau des mecs qu'on rencontre en face. Mais il faut aussi voir le boulot qui a été exercé derrière.
Est-ce que tu disais, Olivier,
qui était présent ce soir,
là où la C3. Là où la C3 a été négligée pendant 2-3 ans, on sait qu'à la Méno, elle ne le sera pas si vous avez eu cette expérience.
Ouais. Non, elle ne le sera pas. C'est pour ça qu'il faudra tout donner. Mais encore une fois, attention, parce que les Bulgares, ils n'ont rien à perdre. Ils ont quelques bons joueurs. Ils ont envie de bien faire. Ils savent où ils vont atterrir chez nous. Donc, je pense qu'ils ne vont pas nous laisser la part belle. Et on va devoir se battre jusqu'au bout, parce que le match contre Francfort, il faudra le mériter.
Kevin est un homme à ma droite qui sait ce que c'est que de sortir des phases de barrage ou préliminaires et arriver loin. CF l'Ajax un cran au-dessus. Justement, cette Eintracht, messieurs, l'an dernier, sauvetage de David Luiz sur sa ligne à la Kyle Walker comme en Community Shield. Sinon, l'Eintracht, c'était l'épouvantail de cette Europa League et ça sentait bon la finale. Est-ce que néanmoins, c'est un petit peu mon coup de gueule? Merci à toi, Olivier, mais réponds à ça si tu le souhaites. Mais est-ce que d'avoir son tirage du tour suivant effectué quelques jours auparavant, ce troisième tour, un peu comme en tennis, quand les mecs calculent, allez le bracket, je suis dans le tournoi de Federer, je suis dans le haut de tableau de Nadal.
En Ligue des Champions, c'est
ça biaise
ça
pas
aussi,
un peu la chose.
C'est à partir des quarts ou des demi qu'on sait déjà contre qui on va jouer.
Oui, c'est à partir des quarts.
Non, surtout quand le quart est fait, tu sais contre qui tu
voilà,
joues.
C'est on ça. Sait de quel côté on va tomber. Effectivement, c'est pour ça qu'on pensait qu'il y aurait Cristiano contre Messi au bout de la route.
Donc tu sais, tu sais que si tu gagnes, tu prends le vainqueur d'un autre match. Après, effectivement, on peut ne pas aimer ce système. Je raffole pas de ça. Je préfère quand à la fin du hop, t'as un tirage. Ouais. Et que tu découvres ton adversaire.
Faut dire que
les tours préliminaires, c'est moins gênant.
Ouais, parce qu'il y a tellement de tours.
Les tours sont condensés. Il y a beaucoup de trucs, c'est l'été, il faut en gros aller vite, il faut éliminer ces tours-là.
Au niveau de l'organisation.
Ça commence. Ça me gêne beaucoup plus en Ligue des Champions qu'on fasse pas le tirage intégral en demi, pour savoir quelles vont être les affiches et qu'on sache avant, tu prends le vainqueur de ce match-là. Là, ça m'ennuie beaucoup plus que là pour le tour préliminaire où bon. Ouais, et puis c'est pas fait, il ne savait pas que ce serait Francfort. Il faut encore, faut-il que Francfort élimine Vaduz, tu sais pas ça.
Oh, tu viens de me dire que c'était déjà acté.
Tu sais pas, il y a combien là.
Soit à 21h38, Daniel disait non, mais ça va bien, Vaduz. Je vais demander à Arthur Robert, on a été à 3-0.
3-0, d'ailleurs, c'est pas fait.
Pas besoin de lui demander, c'est devant mon pif. 5-0, Fünf-null pour Francfort.
C'est pas fait.
Comment il a dit tout à l'heure, le coach Courbis, l'Eintracht, l'Eintracht Francfort mène 5-0.
C'est Vaduz le retour.
Non, c'est déjà Vaduz à Eintracht.
Ah merde. C'est un peu plus compliqué pour Vaduz. Hein.
Il le sait, il plaisante, merde. Il est de mauvaise foi depuis le début, monsieur l'arbitre, il plaisante. Merci Olivier de ta participation.
De rien, juste un petit truc, je voudrais juste passer un petit bonjour à Eric et Julien qui écoutent. Je leur avais dit que je leur ferais.
Bon, bah, salut.
Puis,
Eric
gros bisous. Allez, Racing. Et puis, pour ce qui est des calculs, etc., on comptera les points à la fin, quoi. Pour l'instant, faut
bon, là, c'est de la private joke. Hein. Nous, on connaissait les petites annonces d'Eli avec Kevin et Julien, mais c'est d'un autre.
Pour plaisir. Voilà.
Ok, merci, Olivier. Continue
merci,
de supporter une belle équipe qui fait avec ces moyens-là. La petite info, quand même, messieurs, c'est que Thierry Loret, un homme de 55 ans emmené à l'hôpital dans la nuit de lundi à mardi, quand même, il a son immeuble qui a cramé. Bah, il est là en Bulgarie 3 jours plus tard.
C'est vrai. Il y a des petits soucis.
Ça vous laisse pantois, ça vous laisse de marbre.
On dit, je veux pas parler de son immeuble. Et
j'ai 3 minutes. Est-ce que c'est une bombe? Est-ce que c'est de l'intox? Mais qui dit Eintracht dit Kevin Trapp, qui sera sans doute l'adversaire donc de Strasbourg, qui sera dans les cages. Qui dit départ de Kevin Trapp dit qu'en ce moment, je sais que vous avez beaucoup abordé cette thématique des gardiens, mais Rémi Descamps, souvenez-vous, le gardien qui avait été prêté à Tours notamment. Ça y est, c'est parti pour Charleroi. Je parle du Paris Saint-Germain. Et là, Leonardo, on nous dit qu'il est très intéressé par Anthony Lopez au Paris Saint-Germain. Juste en 2-3 minutes, est-ce que ça c'est plausible ou est-ce que c'est une façon
après,
de...
C'est toujours pareil. Est-ce que Anthony Lopez, il vient pour être numéro 1 devant Areola? Est-ce qu'il vient pour être numéro 2? Parce qu'on sait que Areola, alors d'abord, apparemment, si Areola serait...
Deux, il vient parce que tu lui as promis d'être 1, dans ce cas-là, tu mets le bordel parce qu'Areola...
Voilà, on est d'accord.
Le salaire d'Anthony Lopez aujourd'hui est de 2,6 millions.
Puis Anthony Lopez, franchement, ça me paraît c'est pas totalement incongru que ce mec-là vienne au PSG. Enfin, le gars, il déteste le PSG. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Hein. À partir du moment où Sarri a pu signer à la Juve, ça veut dire que tout est possible. Ouais. Enfin, Higuain avait fait aussi ce chemin. Bref, ça me laisse un peu comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression
que c'est difficile à comprendre parce que dans ce cas-là, Areola, il s'en va alors.
Non mais la force de séduction de Leonardo est là. Le salaire pourtant a été proposé à 5 millions à l'année pour en faire le joueur le mieux rémunéré du vestiaire
de
Jean-Michel Aulas. J'ai deux sources qui se recoupent là-dessus. Est-ce que quand ça traîne comme ça, ouais.
Ah ouais.
C'est pas que, il y a certains confrères qui l'ont abordé. Ouais. Bon, ça vous excite pas plus que ça. Faut régler ce cas-là quand même.
Ça pourra être excitant.
Après, moi, je trouve qu'il correspond pas forcément au profil qui est recherché par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, c'est-à-dire un gardien déjà grand. Parce que aujourd'hui, grand par la taille, parce que c'est un très bon gardien. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'avec Kevin Trapp, avec Areola, avec Buffon, avec Sirigu, c'était toujours là des gardiens vraiment modernes. Je dis pas que Anthony Lopez n'est pas un gardien moderne, loin de là, mais il correspond pas forcément aux standards qui sont recherchés dans les très très grands clubs européens. C'est pour ça peut-être qu'il est toujours à Lyon. Maintenant, moi j'aime bien ce gardien. C'est un gardien qui est très explosif, qui a un bon jeu au pied. Pourquoi pas? Je pense qu'il est meilleur qu'Areola, moi.
On va parler en tout cas, effectivement, de ce problème aussi à Lyon, mais vous en avez parlé de Lyon, Tataru Chanou, Anthony Lopez. Les discussions ne sont pas complètement terminées entre le camp d'Anthony Lopez et la direction lyonnaise. Monaco-Lyon, c'est une bataille pour le podium dans moins de 24 heures, et pourtant on a l'impression que c'est le flou intégral sur les deux camps.
C'est d'abord un match de la première journée, hein, parce que bataille pour le podium, on est quand même à des années-lumière.
Ouais, mais sur le papier.
Là c'est juste un match de la première journée, il faudra juste regarder ce match. Je pense que c'est 2-3 observations tu pourras faire après ce match-là. Monaco va tellement changer de joueurs encore d'ici la fin du mois d'août. C'est plus Lyon, moi, que je vais regarder demain soir. Ouais. Première journée, l'attente, Silvinho, quel genre d'équipe il va mettre, quel va être l'état d'esprit de l'équipe. Il y a une vraie attente de la part des supporters lyonnais, une vraie attente du coach. Juninho sera là, Aulas. Pour Lyon, c'est un rendez-vous important qui ne présage de rien. Ils peuvent rater leurs 2-3 premiers matchs et faire une super saison. C'est pas un problème. Mais il n'empêche que demain soir, à 23h, tu auras vu Lyon pour la première fois. Et moi, ça suffit à m'exciter. Ouais. En plus, je serai sur place. Ah, ça m'excite
si
encore plus.
Si t'es sur place, en plus. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je pense aussi que ça va être très intéressant de toute façon de suivre le Lyon de Silvinho. Alors pour certains ça va être intéressant parce qu'ils vont les attendre, hein, on le sait, avec presque l'épée au fourreau pour lui taper dessus.
Si c'était mieux que Genesio.
Voilà, pour lui taper dessus si ça se passe pas bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé depuis qu'il est arrivé son discours. Je l'ai encore entendu là dire que on lui demanderait souvent pourquoi il avait perdu, mais lui il aimerait bien qu'on lui demande aussi pourquoi il a gagné. C'est-à-dire il est capable de dire voilà pourquoi son équipe a bien joué, qu'est-ce qu'elle a bien fait, qu'est-ce qu'elle a moins bien fait. Moi j'aime bien ce discours un peu rafraîchissant des entraîneurs étrangers qui viennent et qui apportent une autre vision de
Tu peux me préciser alors pourquoi il a encaissé 2-3 buts par match de préparation?
Mais peu importe en fait.
Ouais.
Peu importe si tu encaisses 2-3 buts, mais que derrière en championnat ça te permet d'avoir rectifié. C'est un entraîneur qui est arrivé, qui a eu pas mal de changements dans son effectif, qui a dû apprendre apparemment une nouvelle méthode de travail à cet effectif, qui en avait je pense besoin. On verra qu'est-ce que ça va donner en championnat. Maintenant, moi je suis adepte. Si tu prends 3 buts mais que t'en mets 4 derrière, pour moi ça me pose pas de problème. À partir du moment où t'as
Les 4 en fait.
Hein?
Pour l'instant, il manque les 4.
Voilà, pour l'instant, il manque les 4. Mais bon, Lyon, c'est quand même une équipe, moi je suis d'accord avec Daniel, qu'on va suivre de près. De toute façon, on les suit tout le temps de près.
Bah oui,
mais là, d'encore plus près, c'est avec un œil.
Et quand même, attention. Une équipe phare de notre championnat.
Attention à Monaco quand même, voir comment Monaco va se relever d'une saison compliquée. Beaucoup, dont moi, leur prédisaient il y a encore quelques semaines, ou en tout cas. J'avais envie de voir un Monaco un peu comme Lille qui renaît de ses cendres et qui arrive à faire pourquoi pas une belle saison.
Donc Ronny Lopez est en train de se barrer.
Voilà, c'est ça le problème.
Il va se barrer et joue pas demain. Monaco, tu sais pas quoi. Ouais. Jusqu'à fin août, tu sais même pas avec quel champ d'équipe ils vont jouer.
C'est ça le problème.
Donc
on attendait un peu plus de continuité, mais
c'est même pas intéressant de regarder Monaco. Demain, avec l'équipe un peu diminuée, ils te battent Lyon en proposant quelque chose d'intéressant. Tu dis ah là oui. Ce sera un enseignement, parce que tu dis, si en plus vous vous renforcez, ça veut dire que Jardim a tout de suite repris la main sur l'équipe. Ok, s'ils perdent demain, Monaco, ok, soyons patients, attendons qu'ils reconstruisent leur équipe, là.
Ouais.
Mais franchement, s'ils arrivent dès demain soir à proposer un bon match, même carrément dans le mois d'août, les 4 journées, franchement, chapeau Jardim. Je sais bien qu'il aime bien bricoler et qu'il s'est révélé être un grand bricoleur depuis qu'il est à Monaco. Et là, franchement, ça devient chaque année plus compliqué quand même.
178e match de Ligue 1 tout de même pour Jardim, alors que c'est le premier en face de Silvinho dans le Grand Bain. Par rapport à ce départ-là, tu disais René, mais Ronny Lopez, s'il s'en va, il se dit quand même qu'on t'échange Ben Yedder et 20 millions contre Ronny Lopez. Wissam Ben Yedder à Monaco,
ce serait sublime. Ils n'ont pas d'attaquant.
Bah, moi, je signe dès demain. Hein.
Oui, sauf que attention dans ces gens. J'aime beaucoup Ben Yedder qui en plus prendra la place d'attaquant devant, et ça va manquer. Mais ça doit pas empêcher Monaco de recruter un autre joueur parce que Ronny Lopez il est pas à 9.
Oui.
C'est un créatif au milieu.
Ouais, c'est un 10. C'est un 9,5. Voilà.
Donc c'est dans ce secteur-là aussi qu'il faudra que Monaco compense la perte de Ronny Lopez.
Ils ont Golovin quand même, normalement, qui pourrait enfin enchaîner les matchs et peut-être être au niveau auquel on l'attend depuis qu'il a signé à Monaco.
Non, Monaco, ils ont l'impression qu'ils ont 30 joueurs.
Ils ont 60 Jardim, joueurs.
Jardim m'a dit 17-18, ça doit suffire pour la saison qu'on a à faire. Ce sera bien que dans ces 17-18, il y a des mecs partout. S'ils veulent vraiment être deuxième ou troisième sur le podium, il va falloir quand même qu'à certains postes, ce soit un peu plus verrouillé.
Des 17-18, c'est des 17-18 ans. Ça, ils en ont pléthore. Mariage de raison ou déraisonnable, c'est notre talk dans un instant avec notre correspondant RMC à Nantes, David Filippo. La glace et le feu, appelez ça comme vous voulez. Enfin, Nantes va débuter sa saison avec un nouvel entraîneur, Christian Gourcuff. C'est l'after sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'after foot.